100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. L'état d'urgence s'éternise en Turquie. 3 mois après la tentative de putsch de la mi-juillet, cette mesure d'exception doit être renouvelée dès demain et pour 90 jours supplémentaires. Limogeage, arrestation au sein de l'administration, de l'enseignement supérieur, la société civile paie le prix fort alors que la vie politique est de plus en plus tendue. Face à cette situation inédite, les juristes sont désemparés. Portrait de la Turquie sous état d'urgence, signé Anne Andlauer.
Depuis la tentative de putsch de la mi-juillet et pour 3 mois supplémentaires, renouvelables à loisir, la Turquie tout entière vit sous état d'urgence. Certes, rien n'a changé dans la vie de millions de Turcs. Les commerces n'ont pas des amplis, ni les parcs, ni les cafés, ni les rues des grandes villes à la tombée de la nuit. Le régime d'exception impose sa loi ailleurs, imperceptible pour certains, implacable pour d'autres. Plus de 115 000 fonctionnaires ont été suspendus ou radiés définitivement. L'immense majorité est accusée d'avoir servi en lieu et place de l'État. Un prédicateur turc exilé aux États-Unis, Fethullah Gülen, instigateur désigné du coup d'État manqué. Plus de 32 000 personnes sont derrière les barreaux pour leur lien présumé avec cette conjuration. De mémoire de juriste, on n'a jamais vu ça. L'avocate Benan Molu, spécialisée dans les droits de l'homme, commence par évoquer le désordre complet qui règne dans les tribunaux, où près de 3 500 juges et procureurs ont été limogés, un quart de la magistrature d'avant le putsch avorté.
Vous ne pouvez joindre personne dans les palais de justice. J'ai appelé le tribunal de Kocaeli car je devais parler aux magistrats en charge d'un procès dont j'assure la défense. On a pu me passer ces personnes, mais on m'a invité à prendre le thé. Tant de juges et de procureurs ont été révoqués. Il y a beaucoup de procès et pas assez de magistrats pour s'en occuper.
Les fonctionnaires limogés le sont par décret-loi, édicté par le gouvernement et applicable immédiatement, sans aucun contrôle constitutionnel ou parlementaire à ce jour. Depuis le 21 juillet, s'appuyant sur l'état d'urgence, le Conseil des ministres a publié 8 décrets-lois qui diffusent non seulement la liste des fonctionnaires limogés, mais légifèrent aussi dans de nombreux domaines. Un état de fait dénoncé par l'avocate Benan Molu.
Dans une décision de 1991, le Conseil constitutionnel dit que les décrets d'état d'urgence ne peuvent concerner qu'une période définie et un sujet défini, qui est la raison pour laquelle l'état d'urgence a été décrété. En l'occurrence, nettoyer les institutions des partisans de Fethullah Gülen, accusés d'avoir planifié le putsch. À partir du moment où vous élargissez ce cadre, ou écrivez dans un décret-loi que les fonctionnaires radiés ne pourront jamais réintégrer leur poste, vous violez la jurisprudence du Conseil constitutionnel, lequel, bien sûr, peut toujours renverser sa jurisprudence.
Et c'est précisément ce qu'a fait cette Cour suprême. Il y a quelques jours, contrairement à ce qu'elle avait fait dans les années 90, elle a refusé de statuer sur un recours du parti d'opposition CHP qui réclamait l'annulation de plusieurs décrets-lois. Pendant ce temps, comme le dénonce l'avocate, le régime d'exception s'élargit à d'autres domaines. Il sévit désormais contre tous ceux suspects de lien avec le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, qui profite de la confusion pour redoubler ses attentats. 26 mairies accusées d'aider le PKK ont été placées sous tutelle de l'État. Des chaînes de télévision, radio et quotidiens ont été interdits. Des universitaires, journalistes et écrivains arrêtés pour les mêmes raisons. Dans les couloirs du Parlement, qui portent encore la trace des 3 bombes larguées par des avions putschistes la nuit de la tentative de coup, Engin Altay, chef du groupe CHP, principale formation d'opposition, se dit de plus en plus inquiet.
Le parti au pouvoir considère presque tous ceux qui ne sont pas de son côté comme des partisans des putschistes. C'est un raisonnement dangereux contre lequel nous essayons de l'avertir. Mais il est évident que l'AKP a pris goût à la marge de manœuvre que lui offre l'état d'urgence et qu'il en profite.
Comme toute l'opposition, le parti d'Engin Altay est persuadé que l'imam Gülen et ses nombreux fidèles dans l'appareil d'État ont fomenté le putsch. Mais il s'insurge contre les méthodes du pouvoir.
Il est clair que la communauté Gülen doit être considérée comme une organisation terroriste. Mais qui a permis à cette organisation de s'implanter dans l'État? L'AKP. On limoge les fonctionnaires parce qu'ils étaient membres d'un syndicat guléniste, envoyaient leurs enfants dans une école guléniste ou qu'ils avaient un compte dans une banque guléniste, la banque Asia. Mais on oublie que l'actuel président, à l'époque maire d'Istanbul, a coupé le ruban à l'inauguration de cette banque.
Dans la Turquie de l'après-putsch, tous ceux qui ont eu, de près ou de loin, des liens avec ces écoles, banques ou syndicats proches de l'imam Gulen, se trouvent automatiquement suspects de liens avec le terrorisme. Le député Mehmet Muş, chef du groupe AKP, le parti au pouvoir, justifie cette ligne dure.
Nous parlons d'une organisation dont les membres se sont infiltrés pendant 40 ans dans l'État pour le contrôler. Depuis près de 3 ans, nous martelions qu'il s'agissait d'un groupe terroriste, mais on nous répondait « Où sont leurs armes ?» Ces armes, on les a vues le 15 juillet. Depuis ce jour, toutes les mesures que nous prenons respectent la Constitution.
Sur 115 000 fonctionnaires limogés, 70 000 ont contesté leurs sanctions auprès de bureaux de crise mis en place par l'État. Le gouvernement a surétudié les plaintes au cas par cas et admet de possibles erreurs dans une proportion minime. Du côté des ultranationalistes du MHP, le seul parti d'opposition qui a voté pour la prolongation de l'état d'urgence, le député Erkan Akçay évoque un soutien prudent au gouvernement.
Nous avons accepté cette prolongation car nous faisons face à une grave menace terroriste du fait d'une organisation passée maître dans l'art de la dissimulation. Mais nous disons aussi que la période d'état d'urgence doit être la plus courte possible.
Pourtant, le pouvoir laisse planer le doute sur la durée de ce régime d'exception. 12 mois ne seront peut-être pas suffisants, a déjà prévenu le président Recep Tayyip Erdogan.
Will be proud to say, I am an European.
Tribunaux débordés, procès interminables, multiplication des détentions provisoires, manifestations d'avocats, cette fois nous parlons de la France. Les critiques sont nombreuses, même si les moyens ont été revus à la hausse. La publication début octobre d'un rapport très fouillé du Conseil de l'Europe sur les systèmes judiciaires européens permet de se faire une idée sur ce qui a progressé en France depuis 4 ans et de mesurer ce qui sépare encore l'Hexagone de ses voisins. Daniel Vigneron du site MyEurope.info a passé au crible ce document. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Tout d'abord, la France passe pour un pays qui consacre insuffisamment de moyens à la justice. Est-ce exact?
Écoutez, cela n'apparaît pas si l'on regarde la part du budget de la justice dans le total des dépenses publiques. Pour l'année 2014, le rapport du Conseil de l'Europe indique que la France consacre 1,8% de ses dépenses à la justice. Bon, cela semble modeste, mais c'est quand même plus élevé qu'en Allemagne ou qu'en Angleterre. 1,6%, qu'en Italie 1,3% ou qu'en Espagne 0,9%. Mais attention, ces chiffres font référence au budget total du ministère. Pour prendre la mesure de ce qui concerne directement les justiciables, il faut plutôt regarder les moyens alloués au système judiciaire au sens strict, c'est-à-dire les financements consacrés aux tribunaux, aux ministères publics et à l'aide judiciaire. Là, le tableau est tout différent. Avec 64 euros par habitant en 2014, la France consacre un peu plus de moyens au système que la moyenne européenne, mais c'est nettement moins que nos principaux voisins. Il y a quand même une bonne nouvelle, le budget de tous ces pays a baissé de 2012 à 2014, alors qu'il a augmenté de 5,8% en France et même de 8% depuis 2010. Il y a donc amorce de rattrapage.
Et y a-t-il un domaine, Daniel, où la France est particulièrement en retard ?
À la lecture du rapport du Conseil de l'Europe, on constate que notre pays se montre assez médiocre en matière d'accès à la justice pour tous, qui se mesure à l'importance de l'aide judiciaire accordée aux contribuables dont les ressources sont insuffisantes pour acquitter les frais de justice ou rémunérer un avocat. Avec 5,5 euros de budget consacré pour chaque citoyen à l'aide judiciaire, la France est nettement en dessous de la moyenne européenne de 9 euros et très loin derrière des pays comme la Suède, les Pays-Bas ou l'Angleterre, qui y consacrent de 26 à 38 euros par habitants.
Et qu'en est-il concernant le nombre de juges ?
En ce qui concerne ces magistrats du siège, c'est-à-dire ceux qui restent assis, ceux qui exercent à temps plein sont 10 pour 100 000 habitants en France. C'est assez peu comparé à la moyenne européenne de 21. L'Allemagne est particulièrement bien pourvue avec 24 juges pour 100 000 habitants. D'autant que ce pays s'appuie sur de nombreux juges non professionnels dont le nombre atteint 120 sur 100 000 contre 38 seulement en France, qui sont pour l'essentiel en France des juges consulaires et prud'homaux. À l'inverse, les juges professionnels à temps plein sont très peu nombreux en Angleterre, car la plupart exercent à temps très partiel leurs fonctions et ne sont pas rémunérés.
Et quid du nombre de procureurs ?
Rappelons que ces magistrats du parquet, procureurs de la République et procureurs généraux en appel, travaillent en France sous l'autorité du ministère et ne sont pas formellement indépendants, comme c'est le cas dans la plupart des pays européens. Le nombre de procureurs en France est de 2,8 pour 100 000 habitants, effectif très réduit par rapport à l'Espagne, 5,2, l'Allemagne 6,5, la Belgique 7,6 et surtout les pays scandinaves de 10 à 12. De surcroît, le nombre de procureurs a diminué de 6% en France depuis 2010, alors qu'il augmente dans le reste de l'Europe.
Et la situation est-elle meilleure en France pour les avocats ?
Contrairement à l'idée reçue, les avocats sont nettement moins nombreux qu'ailleurs. 94 pour 100 000 habitants en 2014, contre une moyenne européenne de 147. On est loin des 202 avocats pour 100 000 en Allemagne, des 308 en Angleterre ou des 379 en Italie. On peut toutefois souligner que le nombre d'avocats en France a augmenté de 20% de 2010 à 2014.
Et on imagine bien que toutes ces données ont un impact sur l'encombrement des tribunaux.
En matière civile et commerciale, du fait d'un personnel contraint et du grand nombre d'affaires pendantes devant les tribunaux, la France présente une durée élevée en termes de résolution des affaires. Une durée jugée inquiétante par le Conseil de l'Europe. 348 jours en moyenne en 2014, contre seulement 192 en Allemagne et 132 aux Pays-Bas. Et de surcroît, la situation se dégrade sérieusement en France. On n'était qu'à 279 jours en 2010, alors qu'elle s'améliore en Europe, où elle n'est plus que de 237 jours. En conclusion, l'effort consenti en faveur de la justice française depuis quelques années doit être poursuivi pendant au moins une décennie, et sans doute s'axer davantage sur le recrutement, notamment de procureurs, ainsi que sur le développement des procédures de conciliation ou de médiation.
Merci Daniel Vigneron, à la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
C'est une élection municipale qui n'est pas passée inaperçue en Bosnie-Herzégovine. Pour la première fois depuis 1999, Srebrenica, la ville martyre où 8000 hommes ont été tués en juillet 1995, Srebrenica a désormais un maire serbe et qui plus est, nationaliste. Mladen Grujicic a remporté 54,4% des voix, mais les Bosniaques, qui craignent pour leur sécurité, dénoncent les irrégularités du scrutin. Reportage sur place de Mercia Nezic.
Il n'a pas attendu l'annonce officielle des résultats. Mladen Grujicic a proclamé sa victoire à la mairie de Srebrenica dès le soir des élections le 2 octobre. Un empressement qui dit bien l'état de fébrilité qui règne en ville. Le dépouillement des votes s'est déroulé dans un climat de tension extrême. La police de l'entité serbe a fait irruption dans les bureaux de vote la semaine dernière, officiellement pour prévenir la fraude. Pour les Bosniaques, c'est une manœuvre d'intimidation. Le SDA, le principal parti bosniaque du pays, demande l'annulation du scrutin. Čamil Duraković est le maire bosniaque sortant de Srebrenica.
Aujourd'hui, les médias m'ont prêté une déclaration que je n'ai pas faite. C'est-à-dire que j'aurais admis la victoire aux élections de Mladen Grujicic. Du coup, j'ai reçu un millier d'appels de Bosniaques. Ils ne veulent pas accepter cela. Alors nous allons prouver légalement, à travers les institutions de ce pays, que le processus électoral a été entaché par des irrégularités. Si on est dans un pays normal et démocratique, il faut respecter les lois qui existent. Si quelqu'un fait irruption sans autorisation dans un bureau de vote, eh bien le processus électoral est entaché de fraude. Dans ce cas précis, Milorad Dodik, le président de l'entité serbe, a envoyé la police qui est entrée dans la mairie où se trouve le matériel électoral. Il y a eu des fraudes dans le processus électoral.
Čamil Duraković a été élu personnalité de l'année par l'ensemble des Bosniens, trois reprises, y compris par un journal bosno-serbe qui a salué son engagement pour le vivre ensemble. Visiblement, il n'a pas su convaincre tout le monde dans sa propre ville. Les partisans du nouveau maire, Mladen Grujicic, n'affichent pas ce même attachement à une Bosnie multiethnique. Ici, c'est la Serbie, clamé après la victoire les partisans du candidat nationaliste serbe devant l'un de leurs bastions, un café du centre-ville, le Venera. C'est justement là que Mladen Grujicic nous donne rendez-vous.
Quand les gens regardent tout ça de l'extérieur avec ce qui se passe dans les médias, ils estiment qu'ici on est encore en guerre. Mais quand ils viennent ici et quand moi ou d'autres, on leur raconte qu'il n'y a pas de tension entre les Serbes et les musulmans, ni d'insultes nationalistes, ils sont étonnés. Cette ville est la plus sûre de la République serbe et de la Bosnie-Herzégovine.
Une image très édulcorée de Srebrenica, car la réalité est beaucoup plus tendue. comme nous avons pu le constater dans le café juste après le départ du maire et de ses hommes. La présence de médias étrangers n'est pas souhaitée. Un homme seul, très vraisemblablement un partisan ultranationaliste du nouvel élu, me prend à partie alors que j'enregistre des sons d'ambiance.
Il a gagné, qu'est-ce que tu veux ? Allez, arrête d'enregistrer. Donne les clés qu'on verrouille.
S'il vous plaît, laissez-moi sortir. Je suis journaliste, laissez-moi sortir.
Allez, dégage vite de là avant que je te nique.
L'incident pourrait être interprété comme un acte isolé, mais la police locale que j'appelle réagit avec quelques rires condescendants. À quelques kilomètres de là, sur la route pour Sarajevo, se trouve le mémorial de Potočari. C'est ici que sont inhumés les restes des victimes du massacre de Srebrenica. Shehida Abdulrahmanovic, la soixantaine, habite juste à côté. Son mari a été tué par des paramilitaires serbes en 1992. Son frère est mort lors du massacre commis en juillet 1995. Son corps n'a pas encore été retrouvé. Comme tous les bosniaques de la ville, elle est inquiète de la proximité du nouveau maire avec l'ultranationaliste serbe Vojislav Šešelj. C'est un partisan de la Grande Serbie connu pour sa violence verbale. Vojislav Šešelj a déclaré notamment que les croix doivent être égorgées avec une petite cuillère rouillée.
Nous, les survivants, on ne pourra jamais accepter qu'un partisan de Šešelj soit à la tête de la commune. Il y a des affiches de Šešelj partout dans notre ville. On ne peut pas accepter que quelqu'un qui nie le génocide se rendent au mémorial où sont déjà enterrées 6700 personnes. Elles méritent le respect. Leurs ossements ensanglantés et leurs âmes qui sont dans un autre monde ne méritent pas le drame qui frappe Srebrenica actuellement.
Ni la Serbie ni l'entité serbe de Bosnie n'ont reconnu le génocide. Le nouveau maire de Srebrenica est sur la même ligne. Ce professeur de lycée de 34 ans s'est longtemps investi au sein d'une association de victimes serbes de la région. Il conteste même le nombre de victimes bosniaques.
Un crime terrible s'est déroulé ici, mais cela n'a pas été instruit jusqu'au bout. Par le passé, j'étais à la tête d'une organisation qui s'occupe de prouver la vérité. Nous sommes confrontés à des irrégularités qui démontrent qu'il y a de la manipulation avec le nombre de victimes avant tout. Plus personne ne sait ce qui s'est passé ici. Je pense qu'il faut établir la vérité. Srebrenica est seulement connue à travers ce drame, alors que Srebrenica est vraiment une ville musée. Ici, on a découvert récemment une église vieille de 1500 ans. Cela, personne n'en parle.
La campagne électorale a tourné à l'affrontement entre ceux qui reconnaissent le génocide et ceux qui le nient. 21 ans après les faits, les familles de victimes n'ont pas trouvé l'apaisement.
Et la rédaction de RFI a tenu à marquer son soutien à la journaliste Mercia Nezic, victime d'intimidation durant son reportage. Un communiqué est à lire sur notre site RFI.fr. L'aménagement des voies sur berge, c'est un débat assez controversé à Paris où la mairie entame la piétonnisation de la rive droite de la Seine. À Madrid, c'est un succès, cela s'appelle Madrid-Rio, 10 km ininterrompus d'espace vert le long de la rivière Manzanares, récit d'une révolution verte signé François Musso.
Depuis le XVIe siècle, on s'est moqué sans cesse du Manzanares, cette rivière au débit faible qui n'a jamais été l'objet de soins. On en riait et aussi on déplorait que Madrid soit une des rares capitales d'Europe sans fleuve digne de ce nom. Eh bien, ce n'est plus vrai. Cette révolution pour la ville s'appelle Madrid-Rio, Madrid-Rivière. Il est vrai que le Manzanares n'est pas vraiment plus grand pour autant, mais il en impose. Il y a davantage d'eau, mais surtout des ponts ont été construits, des pavés ont été posés. La rivière a désormais de la prestance et les week-ends, ce sont des milliers de familles qui viennent s'y promener. Quel contraste avec le passé, car auparavant, passait là le périphérique, la M30 comme on dit, avec son lot de bruit assourdissant de voitures et de pollution irrespirable. Désormais, c'est un poumon vert de 10 km de long, avec ses couloirs pour les vélos, ses terrains de jeu, ses 17 parcs pour enfants, ses espaces aménagés pour faire du skate, jouer au basket, au football, au handball, et j'en passe. Si bien que cette partie de Madrid, au sud-ouest, jadis connue comme une ceinture ouvrière malfamée et vilaine, s'est considérablement revalorisée. On s'arrache désormais les appartements le long de cette bande verte, silencieuse en semaine, ludique et festive le week-end. Boutiques, bars et restaurants pullulent, tout comme les ateliers d'artistes. Autre avancée conséquente pour les amoureux de la nature et des parcs, le fait que grâce au couloir vert de la rivière Manzanares, il est désormais possible de traverser tout l'ouest de la ville, du Pardo aux villes à famille royale, jusqu'à Getafe, une ville dortoir du sud, sans subir les gaz d'échappement et le vrombissement des voitures et des autobus.
100% d'Europe était réalisé aujourd'hui par Jérémy Bessé. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique magazine Accent d'Europe. À demain.